Drink more water.
À la mi-octobre 2025, les associations Génération Future et Data for Good éditaient une carte sur le site Dans mon eau qui révèle la qualité de l'eau partout en France. Elle est réalisée à partir des données officielles publiées par les agences régionales de santé et les fournisseurs d'eau. Dans l'Arrajois, il ressort des non-conformités chroniques pour les pesticides et des taux de nitrate et de perchlorate élevés. Faut-il conclure que l'eau du robinet n'est pas saine? Quelles solutions sont mises en place pour améliorer la qualité de l'eau? Dans cette série d'entretiens, nous essaierons d'apporter des réponses à ces questions. Dans cet épisode, on vous propose un entretien avec Patrick Lemaire, maire d'Achicourt, vice-président en charge de l'eau de la CUA, la communauté urbaine d'Arras. Nous l'avons retrouvé sur le site principal de production d'eau potable de la CUA, le site de Méolens, qui produit 70% de l'eau consommée et qui a la particularité d'être équipé de filtres à charbon actifs et d'une unité de dénitratation. Nous évoquons avec lui les politiques mises en place pour prévenir la pollution de l'environnement et de l'eau, le coût de la dépollution, mais d'abord les solutions curatives pour améliorer la qualité de l'eau pompée dans la nappe phréatique.
Alors nous sommes sur le site principal de production d'eau potable de la communauté urbaine d'Arras, donc le site de Méolens, situé à Arras, qui produit à peu près 70% en fait de l'eau consommée sur le territoire de la CUA. On a deux équipements phares qui permettent de traiter l'eau au niveau notamment des nitrates, donc avec l'usine de dénitratation, et puis plus récemment, depuis 2022, une usine production de traitement charbon actif. Alors, le charbon actif, c'est ce que vous avez dans vos carafes d'eau quand vous mettez une cartouche, mais à grosse échelle, et qui traite à peu près 7500 m3 d'eau par jour, qui abaisse, qui nettoie en fait, et qui élimine tout ce qui est justement PFAS, hydrocarbures, pesticides, pour pouvoir en fait avoir une eau de qualité. À la sortie, c'est remélangé avec une eau qui sort du forage et arrive à des seuils en fait suffisamment proches du seuil de qualité de l'eau.
Alors on a le filtre à charbon qui permet de filtrer pesticides et l'unité de dénitratation, c'est bien comme ça qu'on dit. Ouais. Pour les perchlorates, par exemple, qui est un autre problème de pollution dans le secteur, il n'y a pas de solution?
Aujourd'hui, il y a des solutions techniques, par exemple, qui s'appellent l'osmose inversée, mais c'est des techniques de traitement qui sont très 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 chères et difficiles à mettre en œuvre. Il faut savoir effectivement que les perchlorates, on est dans une fourchette en fait de dosage qui a donné naissance à des recommandations simplement de l'Agence régionale de santé sur le fait de ne pas consommer d'eau pour les nourrissons. Donc moins de 6 mois, notamment donc pour remplir les robinets et prendre plutôt de l'eau en bouteille. Et le constat général est que de toute façon, globalement, les personnes d'eux-mêmes mettent de l'eau minérale dans les biberons. En fait, pour les enfants, ils n'utilisent pas d'eau du robinet. Donc on est entre 4 microgrammes. Alors, il faut préciser les unités, hein, parce que c'est vraiment microgrammes, c'est 0,0000. 4 et 15, donc c'est ça. Ça concerne uniquement en fait les nourrissons.
Vous avez parlé d'osmose inverse. C'est pas envisageable pour améliorer la filtration de l'eau?
Tout est envisageable. Là aujourd'hui, on développe une deuxième unité de production de traitement charbon actif à Annie, ce qui fera que l'eau, 75% des volumes d'eau distribués sur la CUA auront été traités. Donc c'est le rapport qualité-efficacité-prix, le charbon actif, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, puisque le prochain investissement va coûter 5 millions d'euros et il n'y a pas de répercussion sur la facture non plus d'eau. Donc si on passe sur des systèmes beaucoup plus sophistiqués, là par contre on est sur des coûts bien plus importants qui aura une répercussion. Donc l'intérêt c'est aussi de se dire, par exemple pour les perchlorates, quelle part de la population est touchée et quelle action déjà les gens ont mis d'eux-mêmes naturellement pour faire par exemple les biberons.
Vous avez parlé d'un investissement de 5 millions d'euros globalement. Est-ce qu'on peut mesurer en fait le coût de la dépollution et savoir qui paie ce coût? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que c'est les distributeurs d'eau? Est-ce que c'est la communauté urbaine
Réglementairement, l'eau est un budget annexe. Elle n'est pas attachée au budget principal. Et le principe, c'est que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que tous les investissements en fait, qui sont réalisés sur l'eau, depuis le forage jusqu'à la distribution et les traitements, sont financés par la facture d'eau. Donc c'est le consommateur qui paye l'eau. Aujourd'hui, on fait des investissements très lourds qui n'ont pas de répercussion en fait, sur le coût de l'eau. Et ça, c'est important, sachant que déjà sur le territoire de la CEA, on a une eau qui est de très bon marché. C'est-à-dire que si vous le comparez aux autres collectivités, on a une eau qui est bien inférieure au prix du mètre cube. Et en plus, avec des tarifs progressifs. On a un tarif très social, 0,70 mètre cube, on est à 0,50 centimes le mètre cube d'eau dans ces volumes-là, ce qui est quand même très, très faible. Et puis après, on augmente un petit peu en fonction des tranches. Donc, on maîtrise en fait le coût de l'eau sur le territoire. On maîtrise aussi la qualité de l'eau. Voilà. Alors, si on parle de la qualité de l'eau, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un héritage. On le découvre parce que justement, nos institutions fonctionnent bien. On recherche de plus en plus de paramètres chimiques dans l'eau et on continuera à en découvrir. L'idée, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour traiter en fait cette eau, pour régler tous ces problèmes, perchlorate, on a dit, PFAS. Et c'est ce que la CEA a déjà entrepris depuis donc 2022, avant même l'apparition en fait de cette carte qui a été produite par Génération Future, qui se base sur des données accessibles, ouvertes à tout public, issues de l'Agence régionale de santé.
Est-ce qu'en matière de pollution de l'eau, on pourrait envisager le principe du pollueur-payeur, par exemple, comme ça se fait dans d'autres cas de pollution environnementale et qui touche à la santé publique ?
Alors, il y a deux types de pollution. Il y a une pollution accidentelle. Vous allez avoir un camion d'essence qui va se renverser, ça va contaminer la nappe, il va y avoir du nettoyage. Là, les assurances vont rentrer en ligne. Après, on a ce qu'on appelle la pollution diffuse. Les perchlorates, c'est la poudre qui était contenue dans les obus de 14-18. Donc vous voyez, aujourd'hui, on récupère cet héritage du premier conflit mondial. Trouver un responsable, faire payer à un responsable, c'est un petit peu compliqué. Il va falloir le gérer différemment. L'autre de pollution diffuse, par exemple, sur les intrants agricoles. Donc l'air d'alimentation d'un captage comme Méolens, en fait, il est sur des hectares et des hectares. Donc qui, en fait, amène le plus d'engrais ? Donc il va falloir remonter, faire ce qu'on appelle, en fait, des diagnostics de pression de pollution dans des secteurs pour pouvoir aller rechercher l'origine de la pollution. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, l'important, c'est qu'on traite, on a une action curative, ça c'est l'action immédiate pour que l'eau soit de bonne qualité. Et parallèlement, on a des actions préventives où on remonte en fait, vers les points d'infiltration des eaux pour comprendre d'où viennent en fait, ces points de pollution et les traiter en amont.
Avant d'en arriver justement à la question de la prévention, est-ce que ce serait possible de savoir quel agriculteur, par exemple, utilise quel pesticide, en quelle quantité et quel impact ça a sur la qualité de l'eau, notamment, ou enfin, en tout cas de l'environnement déjà de prime abord?
Aujourd'hui, les phytosanitaires sont extrêmement contrôlés. C'est-à-dire, effectivement, les agriculteurs, c'est très cher. Donc ils font très attention en fait, quantité épandue, c'est contrôlé en fonction des surfaces, des types de cultures, etc. Sauf qu'on est dans un modèle agricole qui nécessite en fait, de garantir la récolte, donc en traitant, pour éviter les problèmes liés au climat, aux puits, aux ravageurs aussi, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Là, il faut qu'on s'attaque à notre modèle de production. Qu'est-ce qu'on veut aussi comme agriculture avec moins d'intrants chimiques pour pouvoir en fait regagner en qualité. Donc on ne peut pas cibler les personnes, on voit très bien en fait les modèles qui sont mis en place, on voit les points d'entrée de pollution et c'est à nous de remonter. C'est ce qui s'appelle en fait la pression HMUC, parce que la HMUC c'est l'hydrologie, usage, milieu, qui va permettre en fait de déterminer tout ça. Mais aujourd'hui, on cible dans les grandes masses les points d'entrée, il faut qu'on cible les lieux d'entrée. Et puis, il faut traiter de façon plus globale parce que la pollution, elle vient de l'air, elle vient du sol, et après, elle s'infiltre dans le sol et on la retrouve dans le grand réceptacle qu'est la nappe phréatique. Et quand on remonte en fait cette eau, c'est là où elle est analysée. Mais beaucoup d'éléments chimiques proviennent de l'air, les productions d'usines, l'automobile, les hydrocarbures qui ruissellent en fait sur les macadams, tout ça finit toujours en fait dans la nappe phréatique. Donc il faut vraiment qu'on ait une vision beaucoup plus globale. La qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air, la qualité du sol de surface et puis après la qualité souterraine.
Et alors qu'est-ce qui est fait en termes de prévention ? Parce qu'ici on comprend que c'est curatif, c'est après les pollutions, est-ce qu'on ne peut pas agir sur les causes de pollution ? Et qu'est-ce qui est fait dans ce cadre-là ?
Alors il y a certaines molécules, par exemple en pesticides, ici on est concerné par la chlorure d'azone. C'est un produit qui est interdit depuis 2020, voilà, qui n'est plus utilisé, sauf qu'on retrouve petit à petit, les molécules qui sont contenues dans le sol, parce qu'en fonction des profondeurs, la particule migre jusqu'à atteindre en fait la nappe phréatique et est remontée après. Donc il y a des produits qui sont interdits depuis même des décennies. Hein, la trazile, qui était pour traiter les betteraves, il me semble, est interdit depuis des dizaines d'années et on retrouve encore des traces de ce produit dans l'eau. Donc il y a un cycle de nettoyage très très long que le sol opère de façon naturelle et que nous opérons de façon en fait technique. Donc ça c'est la recherche. Et puis après c'est d'aller discuter avec les agriculteurs. Alors on a ce qui s'appelle dans les points sensibles probablement le revenu en fait pour la participation à l'environnement. C'est-à-dire d'accepter que je mette moins d'intrants chimiques. Ok, donc mes rendements vont baisser, donc on peut avoir une compensation financière. Vous voyez, c'est ce travail-là qu'il y a à faire. Mais ça, c'est vraiment à discuter avec la chambre d'agriculture, les agriculteurs, enfin voilà. Et puis après aussi avec les habitants. Hein. Les habitants aujourd'hui n'ont plus le droit d'utiliser de désherbants, par exemple, dans leur jardin, parce qu'ils étaient source de pollution. Chaque action d'un habitant, nettoyez vos pinceaux et le mettre dans le caniveau en pensant que c'est tout à l'égout, vous polluez la nappe phréatique. Donc voilà, il y a aussi une grosse pédagogie à faire sur toutes les strates de la population, qu'elles soient en fait domestiques, industrielles ou agricoles.
Est-ce qu'on peut par exemple envisager une sorte de sanctuarisation de toutes les zones au-dessus des nappes phréatiques pour éviter des pollutions? La communauté urbaine pourrait préempter des terres, c'est possible ça ou...
Alors c'est possible, il y a déjà en fait ce qu'on appelle les périmètres de protection. Ici vous avez sur un périmètre très strict, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Après rapprocher, donc voilà, et puis après vous avez le troisième périmètre qui est beaucoup plus important, dans lequel on a des recours. Alors on part sur des prescriptions, interdiction de faire des choses, puis après des recommandations, et plus on s'éloigne en fait du point de captage, plus en fait effectivement c'est compliqué de contrôler. L'aire d'alimentation par exemple de Mélan, c'est des milliers d'hectares en fait, ça remonte très très haut puisque ça suit en fait le sens des vallées en souterrain, donc on a du mal. Donc préempter des millions de mètres carrés de terres agricoles, ça va être un combat avec les agriculteurs, et je ne suis pas certain qu'il le soit, parce qu'après il faut quand même qu'on produise de l'alimentation, des céréales, des sucres pour nous nourrir. Donc le problème c'est d'aller rechercher le bon ajustement en fait de tout ça. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les alertes qui ont lieu, la prise de conscience collective, l'action politique qui est menée aussi, on va aller vers une eau qui sera de meilleure qualité.
Parce qu'on comprend, là, c'est le lien entre l'agriculture, l'alimentation et la qualité de l'eau potable. C'est pour ça que je parle de préempter les terres et d'essayer sur ces terres éventuellement de mettre en place d'autres formes d'agriculture, ou en tout cas de les encourager.
Oui, alors complètement. Il y a ce qu'on appelle le plan alimentaire territorial qui vient en fait un petit peu travailler en fait ces questions-là. Changer de modèle, on essaye, hein, on est un peu laboratoire. Par exemple, à Chicourt, vous avez la réimplantation d'un maraîcher sur une culture qui est bio, qui existe déjà dans certaines autres communes. Mais c'est un petit élément, et ça peut donner envie à d'autres de le faire. Mais là, on traite avec, quand je vous dis la chambre d'agriculture, parce que ça concerne en fait des milliers et des milliers d'hectares. Donc, et puis après, derrière chaque hectare, c'est un exploitant, c'est avec des objectifs qui sont complètement différents, une approche de l'agriculture qui est différente. Donc c'est assez compliqué, mais on ne peut pas que cibler en fait l'agriculture. L'eau qui est utilisée dans l'industrie pour produire des pièces, pour produire du tissu, pour produire etc. est rejetée aussi en assainissement, et certaines molécules chimiques repartent aussi dans le milieu naturel. Donc il faut aussi s'attaquer au milieu industriel, discuter avec eux pour pouvoir aussi changer les process en fait, de production. La pollution de l'eau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est air, c'est sol et c'est sous-sol dans toutes ces composantes économiques, l'industrie, l'agriculture et le domestique, vous, moi, au quotidien.
Vous avez dit que la qualité de l'eau allait s'améliorer. Bon, ouais. Tout le monde n'est pas aussi optimiste. Premièrement, elle a plutôt tendance à se dégrader. Et deuxièmement, on pourrait faire face à des nouvelles formes de pollution. Bah, je pense par exemple au TFA, qui est une substance acide trifluoacétique. Je préfère le lire que de dire n'importe quoi. Voilà, qui est une substance PFAS qu'on retrouve PFAS, ouais, actuellement, et qui est liée à la dégradation du fluopyrame. Mm-hmm. Et il y a des cas de pollution de fluopyrame qui ont été aussi également révélés. Ouais. Et j'ajoute que les TFA, d'après ce qui est dit, sont trop petits pour être filtrés au charbon notamment. Voilà. Donc, on pourrait penser qu'au contraire, on va avoir à faire face à des situations qui pourraient devenir beaucoup plus difficilement gérables.
Alors, je vais pondérer. Je vais pondérer quand même. L'eau, elle ne se dégrade pas. C'est-à-dire qu'on fait des analyses de plus en plus fines, de plus en plus nombreuses sur l'eau. D'ailleurs, l'eau est l'aliment le plus contrôlé en France. Plus vous allez l'année dernière, il y avait 8 paramètres chimiques à rechercher. On était concernés, notamment nous, par la chlorhydazone, mais pas par les autres. Là, par exemple, vous avez parlé du fluopyrame. C'est depuis 2005 qu'on le recherche. 2025, pardon. Vous voyez, donc en fait, c'est une molécule qui sort comme ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas présente depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans dans l'eau. C'est-à-dire qu'on fait le constat de ce que contient l'eau aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle se dégrade. Enfin, les quantités, elles sont présentes peut-être depuis des décennies, on ne sait pas ça. Maintenant, on les mesure. Et plus vous allez aller rechercher de molécules, de choses, de polluants, etc., plus on va en trouver, ça c'est certain. Donc l'idée, c'est surtout, effectivement, de voir, et je le disais tout à l'heure, pour cette nouvelle molécule, la valeur sanitaire, parce que vous avez deux choses, en fait, quand il faut le préciser, il y a ce qu'on appelle la valeur qualité de l'eau, qui est à 0,1 micron, en fait, en fonction de la substance. Donc quand vous dépassez ça, c'est-à-dire que vous commencez à avoir les substances dans l'eau, vous dépassez le seuil de qualité, ce qui n'a rien à voir avec la valeur sanitaire de l'eau, où là, l'agence de l'eau régionale de santé va mettre des prescriptions où on va fermer la distribution. Et ici, on en est bien loin. Là, on parle des seuils de qualité de l'eau. Hein. Et puis, pour le fluoropyrame, par exemple, l'eau de la CUA, les valeurs, c'est 0,005 microgrammes. Voilà. Donc, on le détecte, mais il est aujourd'hui, je ne vais pas dire inoffensif, parce qu'on ne connaît pas ses effets à long terme. Il faut que l'ANSES fasse des études qui prennent 10 ans, 15 ans, etc. pour mettre ces seuils-là. Donc c'est très complexe. Elle se dégrade parce que, je vous dis, on cherche ce que l'eau contient. Et on en trouvera de plus en plus. Donc maintenant, il faut effectivement mettre les dispositifs en amont, et c'est ce que la CEU avait fait avec le charbon actif, pour traiter les plus grosses quantités possibles à des coûts qui restent raisonnables. On pourra mettre tous les dispositifs qu'on veut, il y aura forcément à un moment une répercussion sur le prix de l'eau. Ça, il faut pas. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on traite? Dans quelle mesure ça impacte? Est-ce que ce sont d'un risque de prescription de l'agence régionale ou des recommandations, etc.? Donc là, il y a tout un autre travail pédagogique, en fait, de prise de conscience ici, de chacun à apporter.
La gestion de l'eau à Arras est organisée en délégation de service public avec un contrat passé avec la multinationale Veolia. On peut alors se poser la question de ce qui pourrait être fait des bénéfices engrangés par Veolia, par exemple des investissements pour la prévention des pollutions ou le traitement de l'eau pour améliorer sa qualité.
Ça, c'est linéaire, en fait, comme réflexion, je m'en excuse. Hein. C'est parce qu'effectivement, on considère qu'il suffit de prendre de l'eau, de la pomper, puis de l'amener en fait, au robinet et que tout se passe bien. Déjà, derrière tout ça, comme vous avez pu le voir là, l'équipement, il faut des gens qualifiés, il faut de la maintenance, il faut des spécialistes, etc. Et derrière, il y a tous des services supports de recherche pour les charbons actifs, on en parlait tout à l'heure. Ça, aujourd'hui, le choix qui a été fait, qui a été débattu dans les instances communautaires, a été effectivement de conserver une délégation de services publics. Délégation de services publics par affermage. C'est-à-dire que la CEA porte les investissements principaux. C'est-à-dire que essentiellement, notre délégataire, qui est SEGA, en fait, est chargé du pompage, de la mise en réserve, de la distribution, en fait, de l'eau, et puis après de l'assainissement. Donc voilà. Tout le patrimoine appartient à la communauté urbaine. Tous les gros investissements sont portés par la communauté urbaine. Donc notre délégataire, sa part, en fait, elle n'est plus dans des contrats, en fait, délégation de services publics par concession, ou alors on payait un prix fou pour les biens de retour. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, la notion de délégation de services publics, elle a évolué. Aujourd'hui, on est toujours, nous, politiques, soucieux en fait, de l'argent public, et on a fait, en fait, des calculs en se disant que céder de gens dont c'est le métier évite d'avoir des ressources propres à la CEA qui nous coûteraient une fois et demie, voire deux fois plus cher. Donc il faut savoir à un moment accepter qu'un délégataire qui est issu d'une multinationale, bon ça fait toujours peur le terme multinationale, qui est implanté localement, qui a des emplois locaux, rentabilise, se prenne en fait un petit peu d'une rentabilité qui est déjà définie dans le contrat, hein, qui n'est pas un secret du tout. Hein. Il y a des comptes prévisionnels d'exploitation qui tournent autour de 2 à 3% de rentabilité, ce qui est quand même relativement faible. Et aujourd'hui, on peut presque être certain que si nous devions porter ça en régie publique, le prix de l'eau pourrait faire presque x2, juste pour supporter les mêmes coûts de l'eau d'aujourd'hui. Donc on est toujours dans cette logique de rapport. Oui, bah, des fois, il faut savoir s'appuyer sur les compétences des sociétés privées pour ne pas le porter au niveau régie, parce que bah, l'argent public, il tombe pas du ciel. Voilà, donc c'est toujours être très, très soucieux en fait, du rapport qualité-prix. Aujourd'hui, un politique local se dit quel est le meilleur service, la meilleure qualité au prix le plus efficient. Bah, aujourd'hui, le modèle de la délégation de services publics par affermage sur la CEA est aujourd'hui pour nous le meilleur modèle.
Alors, un point que je pense ne pas avoir tout à fait compris, mais vis-à-vis du fait que l'autorisation pour la réouverture de ce captage, en tout cas officiel, par la préfecture, impliquait un plan de reconquête de la qualité de l'eau, qui doit donc être mis en place par la communauté urbaine. Exactement de quoi il retourne, quels sont les enjeux, ou plutôt quelles sont les lignes directrices de ce plan de reconquête de la qualité de l'eau ?
Alors, dans le cas particulier du captage de Méolens, effectivement, c'est un captage qui n'avait pas de déclaration d'utilité publique, parce que ça, c'est préfectoral. Pour pouvoir exploiter de l'eau, la pomper, il faut forcément passer par des obligations réglementaires. C'est un captage qui est en milieu urbain, en zone sensible, avec des zones, en fait, on disait tout à l'heure, des stations-service qui étaient aux abords et qui risquaient, en fait, de polluer la nappe de façon accidentelle ou diffuse ou par infiltration. Donc, il avait été classé comme forage sensible et une obligation d'aller rechercher des forages ailleurs, en fait, pour éliminer le risque de coupure. Il était presque voué, effectivement, à la fermeture complète, sauf que c'est difficile aujourd'hui de se priver d'une ressource d'eau, d'une production comme ici, puisque ça couvre 70% en fait des besoins de la CEA. Donc vous ne coupez pas un robinet comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un plan en fait d'accompagnement. Et quand il y a eu ce plan d'accompagnement, les mesures ont été prises, notamment au niveau des travaux d'assainissement. Il y a des millions d'euros qui ont été mis pour que le réseau soit étanche. Les stations-service, bon, il y en a une qui a fermé, l'autre a dû prendre des mesures sur des cuves étanches en cas de pour récupérer les hydrocarbures qui glissent, etc. Donc toute une série de mesures qui, au final, on a représenter le dossier donc aux instances, à l'agence régionale, à la DDTM, etc., et qui nous ont donc autorisé, la préfecture, à pouvoir continuer de façon très officielle, avec une déclaration d'utilité publique, le captage de Méolens à hauteur de 7 500 m3, alors qu'aujourd'hui, il produit 13 500. Donc on a une obligation d'abaissement quand même des volumes prélevés, qu'il faut retrouver ailleurs, donc voilà ce qu'on est en train de faire, mais ce captage, en fait, devient pérenne et très réglementaire.
Dernière question concernant l'épisode de pollution qu'il y a eu en fin d'année dans les communes du sud de la Rajoie. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure actuelle sur les causes de cette pollution ?
Alors, non, on n'en connaît pas. Moi, personnellement, j'en ai pas connaissance parce qu'il y a une enquête, il y a une plainte justement pour cette pollution accidentelle. Donc, celle-là, c'est la gendarmerie qui est venue faire les prélèvements. C'est du côté, en fait, judiciaire aujourd'hui pour trouver l'origine, s'il y a une origine possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une pollution diffuse qui est arrivée lentement, puisque c'était du jour au lendemain où les gens se sont aperçus, en fait, d'une odeur, d'une turbidité dans l'eau, etc. Donc là, il y a eu vraiment une pollution accidentelle dont il faut trouver l'origine.
Drink more water.
Patrick Lemaire, maire d'Achicourt, vice-président de la communauté urbaine d'Arras, en charge de l'eau. Retrouvez les épisodes de cette série « L'eau à Arras, paroles croisées autour d'un bien commun » sur notre site internet radiopfm.com.